Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci de choisir Radio Kapi, la fréquence de la paix. Bienvenue dans votre rendez-vous quotidien avec l'actualité. Au programme, les faits qui ont marqué cette journée, les réactions des acteurs concernés, les reportages de nos correspondants et les éclairages de la rédaction. Je suis Gisèle Cage, voici les titres. Ebola face à un nouvel obstacle, la pénurie d'eau. Dans plusieurs localités du territoire de Mambasa, l'insuffisance d'eau potable compromet le lavage des mains, un geste essentiel pour prévenir la propagation du virus. Bukama sous tension après une présumée incursion de Mai Mai. Commerce fermé, habitants confinés, activités paralysées. La cité a vécu des heures d'angoisse. Les forces de sécurité sont désormais déployées pour rassurer la population. La guerre lui a pris une jambe. Elle a choisi de redonner espoir. Victime des conflits armés dans l'est de la RDC, Wivin Mutaka fabrique aujourd'hui des prothèses pour aider les personnes amputées à se remettre debout. Un parcours de résilience à découvrir en fin de journal. Le Hall Lomami a accueilli ce mercredi le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Une visite placée sous les sceaux du développement, marquée notamment par la mise en service d'une usine de captage et de traitement d'eau au village Lovoy, situé à une dizaine de kilomètres de Kamina, ainsi que par l'inauguration attendue de plusieurs ouvrages réalisés dans le cadre du service national. Arrivé dans l'après-midi à Kamina, avant de se rendre à Kanyamakassese, le chef de l'État a été accueilli par une foule nombreuse venue lui réserver un accueil chaleureux. En Ituri, une inquiétude grandit à mesure que l'eau se fait rare. Dans plusieurs localités du territoire de Mambasa, la pénurie d'eau potable menace aujourd'hui de fragiliser l'un des remparts le plus efficace contre Ebola, l'hygiène. Alors que les autorités sanitaires multiplient les efforts pour contenir l'épidémie, de nombreuses familles peinent à accéder à l'eau nécessaire pour les gestes élémentaires de prévention. Le lavage régulier de mains, pourtant au cœur de la riposte contre le virus, devient parfois impossible faute d'approvisionnement. Face à cette situation préoccupante, les acteurs de la société civile tirent la sonnette d'alarme. Ils dénoncent l'insuffisance, voire l'absence des dispositifs de lavage de mains dans plusieurs zones exposées, avertissant que cette crise pourrait ouvrir la voie à une recrudescence des contaminations entre risques sanitaires, manque d'infrastructures et appel à une intervention urgente. Reportage de Martial Kizabia.
Dans plusieurs villages de Mambasa, l'accès à l'eau devient de plus en plus difficile. Certains habitants passent des longues heures au puits, tandis que d'autres parcourent plusieurs kilomètres pour s'approvisionner dans des ruisseaux. Une situation qui complique davantage le respect des mesures d'hygiène recommandées à cette période de crise sanitaire. Selon des leaders communautaires, les dispositifs de lavage de mains sont quasi inexistants dans plusieurs entités, notamment à Biakato, Ndouye, Mandima et Loloa. Ils craignent que cette insuffisance favorise la propagation de la maladie à virus Ebola au sein des communautés. Ces acteurs appellent les équipes de riposte à installer davantage des points publics de lavage de mains afin de renforcer la prévention. Ils plaident également pour la réhabilitation des sources d'eau existantes qui ne sont plus fonctionnelles. D'après les rapports du Centre des opérations d'urgence de santé publique publié le 26 juillet dernier, 120 cas confirmés d'Ebola sont déjà enregistrés dans le territoire des Mambasa, dont environ 61 décès. Bounia, Martial Kizabia Bungu, Radio Okapi.
Après des années de combat contre Ebola, la science franchit une nouvelle étape dans la quête d'un vaccin capable de dévancer le virus. En Ituri, les essais cliniques de phase 1 d'un vaccin expérimental contre la souche Bundibuyo d'Ebola viennent d'être lancés. Une avancée saluée par l'Organisation mondiale de la santé qui y voit un important pas vers le renforcement de moyens de prévention contre cette maladie hautement contagieuse. Développée par les chercheurs de l'Université d'Oxford, au Royaume-Uni. Ce candidat vaccin est destiné à évaluer la sécurité et la réponse immunitaire chez les premiers volontaires. Son développement intervient alors que la souche Bundibuyo demeure l'une des variantes du virus Ebola pour lesquelles les options de prévention restent limitées. Pour les spécialistes de santé publique, cet essai ouvre des perspectives encourageantes dans la lutte contre une maladie qui, au fil des épidémies, a touché des milliers de personnes et causé plus de 1400 décès. Les détails avec Richard Junior Kamunga.
L'OMS a salué le lancement des essais cliniques de phase 1 d'un vaccin expérimental contre la maladie à virus Ebola des souches Bundibuyo. Le candidat vaccin, baptisé Shadow X1-BD-BV, a été développé par le groupe vaccin d'Oxford et de l'Institut des sciences des pandémies de l'Université Oxford. Il repose sur la même technologie que le vaccin Oxford-AstraZeneca utilisé contre la COVID-19. Le premier volontaire a reçu une dose du vaccin le 24 juillet dernier. Cette première phase d'essai vise d'évaluer l'innocuité du produit ainsi que la réponse immunitaire qu'il génère chez les participants. Dans un message publié sur le réseau social X, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom, a qualifié cette étape d'importante pour le développement d'un outil de prévention contre Ebola Bundibuyo. Selon l'OMS, les données qui seront recueillies au cours des essais permettront d'orienter les prochaines étapes du développement du vaccin avant une éventuelle autorisation d'utilisation par les autorités sanitaires compétentes.
Après plusieurs heures de peur, d'incertitude, le calme est progressivement revenu à Bukama. Mais dans la cité, les traces de la psychose restent encore visibles. Le chef-lieu du territoire de Bukama, dans la province du Haut-Lomami, s'est réveillé ce mercredi sous haute surveillance sécuritaire. Des éléments des forces de défense sont déployés à plusieurs endroits stratégiques pour rassurer la population et prévenir tout nouvel incident. La veille, une vive agitation avait paralysé la cité. Commerces fermés, rues désertes et habitants retranchés chez eux, toute activité avait été suspendue dans un climat marqué par la peur. Selon plusieurs sources locales, cette situation ferait suite à une incursion présumée des miliciens Mai Mai. La société civile locale évoque un bilan provisoire de 2 personnes tuées et une autre grièvement blessée. À ce stade, aucune communication officielle n'a encore été faite par les autorités compétentes sur les circonstances exactes de cet incident. Retour sur cette journée de tension avec Augustin Monga, président de la société civile de Bukama, joint par Jean Gandou.
Hier, à 8h50, que nous avions commencé à entendre des coups de balle, nous étions au marché en train de faire des achats. Au même moment, la population a commencé à courir, à chacun sa direction. Les coups de balle ont continué jusqu'à 15h. Des bouches de gens circulaient de l'intuition de Mai Mai. Arrivé à la cabine, nous avons trouvé une personne tuée à coups de balle, son argent emporté. Et un autre, toujours dans ce même cabinet, qui a reçu un coup de balle au niveau de la jambe. Blessé, il est transféré à l'hôpital. On remontait vers le camp, juste à la prison, et il y a eu encore un monsieur tué, habillé à la manière de Mai Mai. On se pose des questions, comment n'avons-nous pas maîtrisé même 2, même 3 Mai Mai? Nous, population, nous avons besoin de la paix que nous prenons chaque jour. Alors que le gouvernement fasse un effort avec le concours de nos populations, au cas où on remarquait ces gens-là, et on pourra les dénicher. Vous savez, lorsque deux défense se battre, qui empathisent souvent. C'est nous, population, c'est quoi nous crions. En tout cas, nous voulons qu'il y ait la paix.
Une nouvelle déflagration a ravivé la peur dans les territoires de Massissi, au Nord Kivu. À Nyabiondo, les habitants ont une fois de plus été réveillés par les bruits des explosions dans une zone déjà marquée par l'insécurité et les affrontements armés. Selon plusieurs sources locales, une forte explosion s'est produite mardi dans le secteur d'Osobanyungu au niveau d'une position occupée par les rebelles de l'AFC M23. L'incident a provoqué un mouvement de panique au sein de la population, poussant certains habitants à fuir temporairement leurs activités à la recherche de lieux plus sûrs. Des sources concordantes évoquent une frappe aérienne menée par un drone militaire contre cette position rebelle. Toutefois, aucune confirmation officielle n'a encore été communiquée sur les circonstances exactes de cette explosion ni sur son éventuel bilan. Les détails avec Kaki Akewa.
Ce mercredi, le calme est revenu dans l'agglomération de Niabiondo après la paralysie des activités socio-économiques provoquées par cette forte détonation survenue mardi au milieu de la journée, selon plusieurs sources locales. Des notabilités de la région attribuent l'incident à une frappe des drones militaires. Elles indiquent qu'un appareil sans pilote a survolé la cité vers 9h locale avant que deux bombes ne frappent successivement une position occupée par les rebelles de l'AFC M23 près de l'église catholique de Niabiondo. Selon nos sources, aucune cible civile n'a été touchée. La frappe a toutefois provoqué un mouvement de panique parmi les populations riveraines, dont plusieurs habitants ont quitté leur domicile avant d'y retourner dans la soirée. Aucun bilan n'a pu être établi jusque-là, la zone restant inaccessible aux civils. Cette frappe intervient alors que les opérations militaires se poursuivent dans plusieurs localités du secteur Osobianyungu et des entités voisines du territoire des Massissi. Des violents affrontements opposent toujours les Wazalendo alliés au FRDC aux rebelles de l'AFC M23 dans un contexte marqué par l'insécurité et la crise humanitaire.
Qui parle réellement au nom de la société civile du Nord Kivu dans les zones sous contrôle de l'AFC M23? La question alimente aujourd'hui une vive polémique et soulève des interrogations. Depuis Beni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu, la coordination provinciale de la société civile dénonce l'utilisation de son identité dans le territoire sous occupation rebelle. Dans une déclaration publiée ce mercredi, elle affirme n'avoir accordé aucun mandat ni lancé le moindre appel à la marche organisée récemment à Goma par une plateforme se présentant comme la société civile plurielle et les forces vives du Nord Kivu. La coordination provinciale assure par ailleurs qu'aucun de ses responsables ne peut actuellement exercer librement dans les zones contrôlées par l'AFC M23. Dès lors, elle s'interroge sur la légitimité de ceux qui s'expriment en son nom dans ces territoires et appelle la population à faire preuve de vigilance face à toute tentative d'usurpation de son identité. Une mise au point qui vise à lever toute ambiguïté dans un contexte sécuritaire et politique particulièrement sensible. Nous écoutons Fiston Missona, rapporteur général de la coordination provinciale de forces vives du Nord Kivu.
Nous rappelons le fait. Lors de la prise de Goma et Bukavu, les acteurs de la société civile forces vives et le militant des mouvements citoyens ont été spécifiquement pris pour cible. Plusieurs ont été tués, arrêtés, menacés ou forcés en exil. À ce jour, aucun acteur légitime de la société civile forces vives de la RDC n'exerce librement sur les sols occupés par la rébellion de l'AFC M23-RDF. Toute activité se réclamant de la société civile dans ces zones se fait sous contrainte et ne reflète en rien la position des forces vives. Par conséquent, nous désavouons totalement toutes lettres, tout communiqué, toute déclaration signée par une prétendue société civile émanant des zones sous occupation.
Cette mise au point intervient au lendemain d'une marche pacifique organisée mardi à Goma par une plateforme se présentant comme la société civile plurielle et les forces vives du Nord Kivu. Les organisateurs affirmaient vouloir dénoncer les sanctions prises contre certains responsables de la FCM 23 et marquer leur opposition au projet de réforme de la constitution de la RDC. À quelques heures de la rentrée scolaire, les malaises grandissent dans le secteur de l'éducation au Kasaï. Des enseignants, toujours privés de leur rémunération, menacent de durcir leur mouvement. Au cœur de cette colère, le transfert de leur compte de la banque Finca vers Advance Bank. Selon ces enseignants, les opérations d'identification lancées depuis le mois de juin n'ont toujours pas été finalisées. Résultat, plusieurs d'entre eux n'ont pas encore perçu leur prime salariale du mois de juin. Pour les enseignants venus des territoires éloignés, l'attente devient de plus en plus difficile. Bloqués dans les centres urbains pour accomplir les formalités exigées, ils sont contraints de financer eux-mêmes leur hébergement, leur alimentation et leur déplacement sans disposer des ressources qui leur sont dues. Face à ce qu'ils considèrent comme une situation injuste, ils interpellent les autorités provinciales et demandent l'intervention urgente du gouverneur afin d'accélérer le processus. À défaut, il menace de boycotter la prochaine rentrée scolaire. Nous écoutons Richard Mwanza, interrogé par André Katendinga Lamouloumé.
On nous a délogé des fincas pour l'Advance Bank. Pour être identifié chez l'Advance Bank, ça doit prendre peut-être quelque chose de 3 ou 4 semaines. Nous allons maintenant pour trouver les numéros des comptes. Ça prend 2 semaines. En plus de cela, quand nous allons pour toucher l'argent, on doit appeler d'abord Kinshasa pour que Kinshasa puisse mettre quelque chose parce que dans le compte c'est vide. On a commencé à nous identifier depuis le 15 juin. Nous nous posons des questions. Nos collègues qui sont à Finca, le même jour qu'ils sont fait identifier, c'est le même jour qu'ils reçoivent leur argent de paye. C'est l'Advance, ce n'est pas le cas. Nous nous sommes dit non, trop c'est trop. Nous avons vu les autorités, mais il n'y a plus de réaction. C'est pourquoi nous demandons son excellence, monsieur le gouverneur de province, de pouvoir nous faire retourner à Finca. Que son excellence puisse vraiment avoir les soucis des enseignants. Puisque d'ici le premier, c'est la rentrée. Sinon, ça sera bon.
Bon université.
À Matadi, au Congo central, l'espace public ne sera plus un parking à ciel ouvert. Les autorités urbaines ont lancé une opération de grande envergure pour mettre de l'ordre sur les principales artères de la ville. Depuis lundi, les services de la mairie sillonnent plusieurs quartiers afin d'identifier et d'évacuer les véhicules hors d'usage ainsi que les épaves abandonnées le long des routes. Une situation qui, selon les autorités, contribue à l'encombrement des chaussées, la circulation et dégrade l'image de la ville. Les propriétaires sont appelés à prendre leurs responsabilités en retirant leurs engins avant leur transfert à la fourrière. Reportage d'Élise Kavira.
Le lancement de cette opération d'évacuation des épaves et véhicules abandonnés est salué par de nombreux habitants de Matadi. Pour Bibi Chianfou, ces carcasses encombrent des avenues, entravent la circulation et contribuent à l'insalubrité dans la ville.
J'ai toujours dit qu'une ville ne peut pas ressembler à un garage de véhicules à panne. Nos avenues sont devenues étroites et sales. Il y a des véhicules qui sont ici depuis plusieurs mois.
Au-delà de ces désagréments, la question de la sécurité préoccupe également les habitants. C'est le cas de ces jeunes matadiens rencontrés sur les lieux lors du démarrage de l'opération.
C'est une belle initiative. Ces carcasses servaient de cachette aux criminels la nuit. C'est bien que les avenues soient dégagées à présent.
Selon les autorités municipales, plusieurs communiqués ont été publiés au cours des 6 derniers mois, invitant les propriétaires des véhicules et carcasses abandonnées sur la voie publique à les évacuer. Jires Bandila, chef du bureau des transports urbains, en donne des explications.
Cette opération qui a commencé est pour une durée indéterminée, que ce soit des épaves, des remorques ou des petits véhicules. Rien ne sera épargné. Je lance encore un message aux propriétaires. C'est le moment de récupérer vos véhicules abandonnés.
La population de Matadi salue cette initiative et souhaite que cette opération soit menée avec rigueur afin d'améliorer le cadre de vie de tous. Matadi, Elis Kavira, Radio Okapi.
C'est une décision qui pourrait rebattre les cartes dans un dossier suivi de près par l'opinion publique en Mbujimayi. Le gouverneur du Kassai Oriental a rapporté ce mardi son arrêté portant lotissement d'une portion de terrain appartenant à la société minière des Bakwanga, la Miba. Cette parcelle est localisée entre le Guest Lusambo et l'avenue de la coopération au quartier Kassai dans la commune d'Inkashi. Alors que les concessions foncières de la Miba font régulièrement l'objet des convoitises et des contrôles, cette décision est perçue comme un signal fort en faveur de la protection du patrimoine de l'entreprise minière publique. Elle intervient également dans un contexte où plusieurs voix appellent à une gestion plus rigoureuse des actifs de la société. Les motivations de cette annulation, les réactions qu'elle suscite, ainsi que les enjeux qui entourent cette concession, c'est à découvrir dans cet élément signé Esther Ndanafina.
L'arrêté provincial annulant le lotissement d'une partie de la concession de la Miba a été rendu public ce mardi sur les antennes de la RTNC en Mbujimayi. Selon le gouverneur de province, cette décision vise à préserver l'équité, la justice et la paix sociale dans la ville. Pour rappel, en juin dernier, l'autorité provinciale avait signé un arrêté portant réaménagement du quartier Kassai. Ce projet prévoyait notamment le lotissement d'une portion de terrain appartenant à la Miba. Près de 150 parcelles avait été déjà délimité par les services techniques et certains bénéficiaires avaient même entamé des travaux de construction. Cette initiative avait cependant suscité une vive opposition de la MIBA. Dans une correspondance datée du 22 juillet 2026, adressée à la ministre des Affaires foncières avec copie au président de la République, l'entreprise avait dénoncé les études de faisabilité réalisées sur ces parcelles résidentielles en vue de leur lotissement. Elle estimait que cette démarche était était contraire aux dispositions de la loi foncière. Une semaine auparavant, les 8 syndicats de la MIBA, réunis au sein de leur bureau syndical national, avaient également rejeté ce projet, estimant qu'il portait atteinte aux droits de l'entreprise sur sa concession. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Actualité internationale.
La Russie a annoncé ce mercredi l'émission d'un avis de recherche internationale contre Pavel Durov, fondateur et patron de la messagerie Telegram. Moscou l'accuse de complicité de terrorisme, estimant que sa plateforme aurait été utilisée par le service ukrainien pour recruter des jeunes russes en vue d'activités de sabotage. Selon le service fédéral de sécurité russe, Telegram n'aurait pas supprimé certains canaux et outils de communication que les autorités russes se considèrent comme liés à des activités terroristes. L'enquête porterait notamment sur le recrutement présumé des jeunes russes par des agents ukrainiens.
L'invité.
De victime à actrice de l'espoir. Le parcours de notre invité est celui d'une femme qui a transformé une tragédie personnelle en une mission au service des autres. En 2014, en pleine insécurité dans l'est de la RDC, Wivin Mutaka perd une jambe à la suite d'un acte de guerre. Un drame qui aurait pu briser son avenir. Mais grâce à une bourse du Comité international de la Croix-Rouge, elle poursuit une formation de 3 ans au Togo et devient technicienne orthoprothésiste. Aujourd'hui, au Centre pour handicapés physiques, Chéri Kalaoumoudia de Goma, elle conçoit et adapte des prothèses qui permettent à d'autres amputés de retrouver leur mobilité, leur autonomie et leur dignité. Dans cet entretien, empreint de courage et de résilience, elle revient sur son parcours, son combat et lance un appel fort en faveur du retour de la paix dans l'est de la RDC pour éviter que d'autres Congolais ne connaissent le même sort. Wivin Mutaka est l'invité de Rosalie Zawadi.
Wivin Mukata, bonjour.
Bonjour, merci. Vous êtes orthoprothésiste ici au Centre pour handicapés Chéri Kalaoumoudia à Goma. Dites-nous comment a commencé ce parcours.
C'était même pas dans mes pensées d'être orthoprothésiste avant mon accident. Avant, je voulais être informaticienne. Mais malheureusement, c'était en 2014. Il y avait une bombe qu'on avait larguée sur notre maison à Beni. J'avais perdu ma jambe. Nous étions blessés au nombre de 3, moi, papa et maman. Et j'étais la seule à perdre un membre de mon corps, une partie de mon corps, je veux dire ma jambe là. C'est pourquoi j'ai même mis une prothèse sur moi. Et nous étions pris en charge par les CICR à Sebekandocho. Et la jambe était déjà gâtée, je veux dire gangrénée. Et on avait jugé bien d'amputer la jambe à question. Aujourd'hui, je suis technicienne orthoprothésiste parce que lorsque j'avais bénéficié de ma première prothèse, c'était à Bukavu, où j'avais vu un papa double amputé. Bon, il était tout le temps triste avant sa prothétisation. Je le voyais, bien que moi-même, je n'avais pas mes deux jambes. Mais pour lui, je voyais visiblement qu'il était traumatisé, bien sûr, comme moi, parce que l'acceptation n'est pas facile. Mais quand il avait essayé ses deux prothèses, quand il était debout, il était content. Bon, en fait, moi-même, j'étais contente pour lui. Et je m'étais dit au fond de moi que c'était la chose que je devrais faire pour les autres personnes assurées d'handicap, surtout les amputés, parce que l'acceptation n'est pas facile. Alors je me disais, je serais la mieux placée pour motiver les autres, leur dire que, bon, après l'amputation, il y a la vie qui continue.
Lorsque vous avez fabriqué la première prothèse pour une victime et vous l'avez vue la porter, qu'est-ce que ça vous a fait?
Non, j'étais hyper contente, en même temps triste. Pourquoi triste? Parce que j'étais arrivée alors qu'il y avait l'influx de patients, victimes. Oh, j'étais blessée par bombe. Oh, balle. Je me disais, mais finalement, c'est quoi le problème? Moi, je me disais, bon, ok, si on bombarde, ma jambe est partie. Et si ça s'arrêtait sur moi et qu'il n'y aurait pas d'autres victimes, pourquoi ça continue? À l'école, on avait des patients, oui, mais pas des patients victimes des conflits armés. C'était des patients soit poliomyélite, accidents de circulation et tout. Maintenant, ici, là, c'est... Voilà, ils ont des plaies, ils sont tristes, et c'était mélangé. Pour moi, j'étais vraiment triste. et en même temps contente parce que j'étais déjà en RDC et que je prenais soin des autres. Et j'ai motivé certaines personnes, surtout les femmes. Ah oui, ça nous fait mal.
Et vous avez subi les conséquences de la guerre. Et aujourd'hui, la guerre continue. 12 ans depuis que votre maison a été bombardée. Quel message avez-vous à envoyer à ceux qui font la guerre?
Nous, populations, nous avons juste besoin de la paix. Ils peuvent se tirailler entre eux là-bas et laisser la population tranquille. Parce que nous sommes vraiment victimes. Si ils sont en guerre parce qu'il y a la richesse en RDC, bien, nous, on se cherche. Il y a certaines personnes qui vont à la forêt. Et là, ils peuvent marcher sur une bombe parce qu'il y avait une guerre et puis on avait oublié la bombe peut-être là-bas. Pourquoi on a amputé la personne là? Ou bien pourquoi la personne là est morte? Juste parce qu'il y a des tiraillements entre tel état ou bien... Vraiment, nous avons juste besoin de la paix en RDC. C'est ce que nous demandons. Juste ça, hein. On n'a pas besoin de leur argent. On n'a pas besoin d'éducation gratuite. Hein. Pas besoin de ça. Tout ce qui est gratuit là, on ne veut pas. Nous, on veut la paix. On va aller au champ, on va cultiver. On aura nos choses à nous. Parce que quand il y a la paix, les enfants peuvent aller à l'école. Mais avec gratuité, il y a guerre. Comment les enfants peuvent aller, je vais dire, étudier alors qu'il y a un, ça ne va pas? J'espère à la paix. C'est pourquoi je suis à Goma. Parce que je sais qu'un jour, on aura la paix. Ça sera une joie pour nous tous. Les gens qui seront encore valides et nous, les victimes, on sera dans la joie de savoir que la paix est revenue en RDC.
Beaucoup de courage.
Merci vraiment.
C'était Wivine Moutaka, technicienne orthoprothésiste au Centre pour handicapés physiques, Chirika Laoumoja de Goma, victime de guerre, devenue actrice du changement. Elle revenue sur son parcours de résilience et lançait un appel en faveur du retour de la paix dans l'Est de la RDC. Elle répondait aux questions de Rosalie Zawadi. Fin de cette grande édition. Merci de votre confiance et de votre fidélité. Pour ne rien manquer de l'actualité, retrouvez-nous sur www.radiocapi.net et sur nos réseaux sociaux. Gisèle Kaj vous accompagner à la présentation. Alain Goy assurait la mise en onde. Excellente soirée sur Radio Capi, la fréquence de la paix.